Monsieur Mabadour, donc bonjour et merci d'être parmi nous sur ONU Info. Donc, vous êtes le chef de la division des services de surveillance du climat et des politiques à l'Organisation météorologique mondiale, l'OMM. Donc, un nouveau rapport annuel de l'OMM sur l'état du climat mondial en 2020 vient de sortir. Ce n'est pas un rapport très réjouissant, je pense, malgré le ralentissement économique lié à la pandémie. Ça n'a pas réussi à freiner justement le changement climatique. On pensait que ça allait avoir certaines conséquences. Donc peut-être pour commencer, pourquoi?
Effectivement, ce n'est pas un rapport réjouissant, comme d'habitude d'ailleurs depuis plusieurs années. Cette année, il avait une conjoncture un peu désastreuse, conjuguant les deux désastres, la pandémie de COVID et les effets des changements climatiques et les événements extrêmes qui ont battu des records dans pas mal de régions du monde. Donc aujourd'hui, on lance la version finale du rapport qui a été lancé en version provisoire au mois de décembre. Maintenant, on a toutes les données qui étaient nécessaires pour parler des indicateurs du climat annuel. Ces indicateurs, comme j'ai dit tout à l'heure, malheureusement, montrent toujours des signes très, très, très négatifs. La température se confirme maintenant parmi les 3 années les plus chaudes, avec des records de température dans presque toutes les régions du monde. En Sibérie en particulier, nous avons enregistré une température de 38 degrés centigrades au mois de juin. Il paraît que ça va être le record des températures sur le cercle arctique. En Australie, dans les Caraïbes, aux États-Unis et au Japon, on a enregistré aussi des records de température allant de jusqu'à 48 degrés dans certaines régions. Avec ces températures records, donc on imagine qu'il y a d'autres conséquences, les feux de forêt. Aux États-Unis, on a enregistré un record des feux de forêt sur l'ouest des États-Unis. Et ça nous rappelle aussi les feux de forêt qui ont eu lieu en Australie, avec un dégât important sur la faune et la flore. Plusieurs milliards d'espèces ont été menacées. Donc, il y a aussi les inondations, parce que les événements ne viennent pas d'une seule catégorie. Les inondations en Afrique, surtout en Afrique de l'Est, qui ont engendré un déplacement de millions de personnes. Et les inondations également en Asie. Puis, on enregistre également le niveau de mer qui continue à augmenter. Et ce n'est pas uniquement le niveau de mer augmente, mais on a enregistré durant les dernières décennies une certaine accélération de l'augmentation des niveaux de mer. Sur certaines régions, l'augmentation est beaucoup plus marquée que sur la moyenne globale, notamment les régions qui sont affectées par les cyclones tropicaux. Et lorsque nous avons les cyclones tropicaux et l'élévation des niveaux de mer, ça fait que ces cyclones tropicaux sont plus dévastateurs que s'il n'y avait pas une augmentation des niveaux de mer. C'est pour cela que, durant les dernières années, on commence à avoir des impacts énormes de ces cyclones tropicaux. Cette année, la saison des ouragans qui a frappé les États-Unis, les Caraïbes, était désastreuse. C'était une saison la plus en record sur plusieurs aspects. D'abord sur l'aspect nombre d'ouragans et puis sur l'aspect dégâts. Un cyclone tropical qui a touché la Louisiane, il a engendré presque 19 milliards de dollars de dégâts. En Inde aussi, un typhon qui a engendré presque environ 14 milliards de dégâts. Donc, ça chiffre en plusieurs dizaines de milliards de dégâts pour un seul événement. Et vous imaginez avec ces dégâts plus ce qu'a occasionné le COVID. Donc, on ne peut pas dire que c'était une année joyeuse. 2020 va être marqué dans l'histoire comme une année à double tranchant, de par COVID et d'autre part les changements climatiques qui continuent à s'accélérer avec les impacts désastreux sur l'ensemble de la planète.
Et je pense aussi que la chaleur de la surface des océans a augmenté. Qu'est-ce que vous avez pu observer justement?
Donc, lorsqu'on fournit les températures globales, cette année, ça se chiffre entre 1,18 et 1,23 comme fourchette d'estimation de la température de toute la planète. Ça comprend aussi bien les océans que les températures sur les terres. En ce qui concerne les océans, donc, le contenu en chaleur emmagasiné à l'intérieur de l'océan sur des profondeurs allant de la surface jusqu'à 2000 mètres, continue d'augmenter avec toujours des records. Et au niveau de la surface, donc les vagues de chaleur maritime, on a enregistré à peu près 80% de la superficie de l'océan a connu au moins une vague de chaleur intense. Lorsqu'on parle des vagues de chaleur sur sanitaires, on comprend bien leurs conséquences sur les êtres humains, donc les maladies cardiovasculaires, les maladies respiratoires. Mais sur les océans, on a aussi des impacts sur les systèmes écologiques de l'océan. Donc, les coraux, par exemple, sont très fragiles par rapport aux températures de la surface de la mer. Et on continue déjà à constater dans pas mal de zones où il y a des richesses de coraux, a été effectivement affecté très dangereusement par ces vagues de chaleur maritime depuis maintenant plusieurs années. En plus de ça, donc, il faut signaler que la Terre elle est couverte des glaciers et des banquises. Et c'est là où on trouve vraiment des indicateurs clairs et visibles à l'œil humain que le changement climatique, vraiment, ça s'accentue. La banquise de l'Arctique a enregistré cette année, pour la deuxième fois, des étendues inférieures à 4 millions de kilomètres carrés. C'est la deuxième fois. La première fois, c'était le record en 2012. Donc, on voit bien que la banquise de l'Arctique se rétrécit. En ce qui concerne les inondices de le Groenland et de l'Arctique, on enregistre plusieurs gigatonnes de glace perdues annuellement à cause de la fonte des glaces et à cause donc des températures qui continuent d'augmenter. Donc, globalement, les indicateurs ils sont là, ils sont négatifs. Les tendances des températures continuent malgré le COVID. Donc, l'atténuation des activités industrielles, ça n'a pas empêché que les concentrations de CO2, qui ont connu une petite baisse au début de la pandémie, mais avec l'ouverture de l'économie d'une manière un peu plus relâchée, la concentration des gaz à effet de serre s'est relancée et on se trouve sur l'allure habituelle de la tendance à la hausse. Donc en 2019, c'est les dernières statistiques que nous avons, on avait enregistré environ 410 particules par million de volume et maintenant on est presque à 414, 415 particules par million. Donc, vous voyez, ça continue à augmenter. Donc, voilà globalement les grands indicateurs du climat. Bien sûr, avec les facteurs socio-économiques qui sont aussi très touchés, les populations affectées par les désastres naturels ou causés par les changements climatiques sont en nombre croissant. On a enregistré, d'après la Fédération des Croix et des Croissants Rouges, environ 50 millions de personnes étaient doublement touchées par la COVID et par les désastres naturels. Donc, vous imaginez la complication des choses là. Vous avez des gens qui sont déplacés, qui quittent leur foyer, mais avec COVID, on demande aux gens d'être prudents, de porter des masques et d'avoir des distances de protection. Mais là, c'était pratiquement impossible. Vous avez des masses de millions de personnes qui se déplacent. Et il y a aussi la sécurité alimentaire. La production agricole, elle était sévèrement touchée. Donc, l'offre et la demande des produits alimentaires, elle était désastreusement touchée, surtout dans les pays en voie de développement. Et ce qui a encore accentué le problème, c'est que lorsque devant des sécheresses où les gens ils ont besoin d'une aide alimentaire, par exemple à travers le programme mondial alimentaire, le PAM. Cette année, avec les restrictions de déplacement de COVID, ces pauvres gens étaient confrontés donc, à une réduction de l'aide humanitaire. Donc, vous voyez, comme vous l'avez bien dit au départ, ce n'est pas une année joyeuse et le rapport non plus.
Donc, voilà. Et donc, ce rapport montre que nous n'avons pas de temps à perdre, justement. Mais année après année, on parle qu'il faut agir maintenant, mais les effets continuent de devenir de plus en plus importants. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire?
Oui, je ne suis pas assez sceptique. Je crois qu'il y avait beaucoup d'efforts qui ont été faits dans pas mal de régions du monde, dans les villes même, parce que même dans les pays où il y avait un certain retrait par rapport à l'agenda du climat, il y avait quand même les autorités locales au niveau des villes, au niveau des départements qui ont pris leur initiative et s'engagé dans la lutte des émissions de gaz à effet de serre. Il y a aussi une chose importante, c'est que la technologie a fortement progressé les dernières années, donc qui offre la possibilité facile d'accéder aux énergies renouvelables. On voit très bien maintenant les pays en voie de développement qui se trouvent dans des zones où le soleil brille plus, des projets énormes d'énergie solaire, mais aussi dans les pays du Nord avec l'énergie des vents, l'énergie éolienne. Donc maintenant, l'accès à cette technologie, il est facile. Et donc, ça donne l'ambition d'aller très rapide dans l'agenda de Paris. Et d'ailleurs aussi la bonne nouvelle, la nouvelle administration des États-Unis aussi rejoint les accords de Paris. Donc ça va créer une dynamique. Espérons à la COP 21 au Royaume-Uni, on va encore pousser un peu les pédales pour accélérer le processus. J'espère que 2020 était une année pas joyeuse. Nous espérons que 2021 va apporter de très bonnes nouvelles avec cette dynamique.
Vous avez encore de l'espoir.
Oui, c'est que le secrétaire général des Nations Unies, il appelle les gouvernements de combiner vraiment les efforts afin qu'on arrive à une planète neutre de CO2 d'ici 2050. Donc, le pari n'est pas perdu, hein. Si maintenant les grandes puissances émettrices des gaz à effet de serre se mettent un peu rapidement, il y a cet espoir. Si on arrive donc à stabiliser les températures à 2 degrés centigrades d'ici la fin du siècle, l'accord de Paris stipule faire mieux, 1,5. Je pense que il y a de l'espoir, mais il faut que ça continue. Il faut pas qu'on change d'une année à l'autre avec les changements des gouvernements parfois. Donc on revient en arrière malheureusement. Mais je pense qu'il y a un espoir et on va attendre la COP 21.
Monsieur Omar Badour, merci beaucoup pour cette interview.
Merci beaucoup.